Théma, le magazine pour faire le tour en une heure de l'actualité.
Théma. Bonjour à toutes et à tous, auditeurs et auditrices, et nous sommes en direct de Grandrieu pour la quinzaine culte de l'association Tête de Bloc. C'est donc Théma, l'émission culturelle en direct aujourd'hui de 16h05 à 17h sur 48FM. Et je ne suis pas tout seul pour m'accompagner pour cette heure d'émission, Vanessa Cusay.
Bonjour, c'est ça.
Bonjour à vous, vous êtes photographe basé à Marseille et vous êtes là dans le cadre d'une exposition pour la quinzaine culte. À votre gauche, Mathieu Farcy, bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes un peu le régional de l'étape, originaire de Marvejols, également pour une expo photo. Et puis on a avec nous Timothée, bonjour Timothée.
Bonjour.
De l'association Tête de Bloc, voilà, vous allez participer avec nous à cette discussion sur une première partie sur les deux expositions. On a la chance d'avoir les deux photographes avec nous. Et puis peut-être dans une seconde partie, on reviendra sur le programme de cette quinzaine culte, la première édition cette année en 2025. C'est bien ça ?
Tout à fait.
Peut-être justement avant de parler de cette exposition, sans rentrer dans le programme purement, ça on l'évoquera dans une seconde partie, mais la quinzaine culte, c'est né comment ? Rappelez un peu. Qu'est-ce que Tête de Bloc et voilà comment est née cette première édition.
Oui, alors Tête de Bloc, on fait de la diffusion surtout musiques actuelles mais aussi photographie contemporaine, un peu de lecture. Et c'est vrai qu'après 4 ans d'itinérance, donc une prog musique actuelle itinérante sur la Margeride, mais qui va continuer, mais aussi un Total Festum Grandrieu, donc temps fort sur la culture occitane. Voilà, on avait envie de changer de concept, et c'est vrai que l'année dernière, la première exposition dans le lieu La Grange à La Bataille, qu'on appelle maintenant le Variété, donc c'est bien passé, c'était Jérôme Blin qu'on avait accueilli en résidence de territoire. Et du coup, voilà, on a eu envie, autour d'une double exposition cette année, donc de Vanessa et Mathieu, de proposer une programmation culturelle dont on va parler après, je pense.
C'est ça. Et vous, d'ailleurs, comment justement vous avez été approché ? Je commence avec vous, Vanessa, sur ce projet. Parce que voilà, je vous le dis, vous êtes de Marseille, vous faites du cinéma aussi à côté de ce projet photographique. Mais voilà comment les connexions se sont faites pour venir ici exposer. Donc, c'est vrai que j'aurais pu rappeler aussi les dates pour cette quinzaine culte du 15 au 27 juillet.
En fait, je pense que le c'est né d'une expo que j'ai exposé ce travail à Paris dans une expo qui s'appelait Luxe. Luxe, c'est une association qui fédère des festivals de toute la France, des festivals photos. J'avais exposé ce travail au festival Photex d'Aix-en-Provence et chaque festival devait proposer un ou deux photographes pour le représenter. Et j'ai eu la chance que Timothée passe pendant cette expo et on avait discuté rapidement et il m'a recontacté après pour me proposer d'exposer ici.
Et vous Mathieu, encore une fois originaire de Marvejols, peut-être que les connexions se font plus facilement même si vous êtes professionnellement entre la Picardie, Amiens et puis toujours sur votre terre lozérienne.
Oui, les connexions se font plus facilement. Moi je suis venu l'an passé à l'exposition, j'avais rencontré Timothée et Claire de Tête de Bloc auparavant. Et ils me font la joie de me permettre d'exposer ici. C'est ma première exposition en Lozère. Donc, je suis hyper joyeux d'être là.
Et donc, les expositions, on va en parler. Donc, c'est Après les Cygnes pour...
Après les Cygognes.
Après les Cygognes, pardon. C'est mon écriture, j'ai du mal à me relire sur mes notes. Après les Cygognes. Donc, c'est le nom de l'exposition qui sera ici. Et puis, c'est pour Montre tes yeux. Là cette fois-ci je me suis bien relu pour Mathieu. On va commencer avec vous Vanessa, donc c'est une exposition, vous avez commencé la photographie en 2014 alors que votre premier enfant ou votre enfant en tout cas était tout bébé et donc c'est un peu lui qui a déclenché l'envie de la photographie avec, oui. C'est ça, un rapport à la maternité et au retour aux sources.
Oui c'est ça, enfin, c'est vrai que j'ai commencé à faire vraiment de la photo à sa naissance, je pense que j'avais besoin d'exprimer des choses à ce moment-là. Et le projet, vraiment, après Les Cigognes, il a commencé un peu plus tard, en 2016-2017, je dirais. C'était un moment où j'étais un peu perdue dans mon statut de mère. On a pas mal d'injonctions quand on est maman. Et voilà, moi, je me sentais pas trop à ma place. Je me sentais un peu dépassée. Et donc, je pensais beaucoup à ma grand-mère paternelle que j'avais pas connue, qui avait eu 10 enfants. Du coup, avait un destin tout à fait différent du mien et je me demandais bien qu'est-ce qui pouvait nous relier à travers le temps et les lieux, parce qu'elle était polonaise, elle avait immigré en France. Et donc, pour essayer de la connaître, parce que j'avais très peu d'archives sur elle, je suis allée en Pologne, là où elle avait vécu. En me mettant dans ses pas, j'avais un peu envie de ressentir quelque chose, le sentiment de me rapprocher d'elle, de voir les mêmes paysages, d'avoir les mêmes lumières. Et puis petit à petit, j'ai tourné mon appareil de manière assez instinctive vers mon enfant qui était là à tous ses voyages. Et c'est un peu comme si, en cherchant ma grand-mère, j'avais trouvé mon fils, ou en tout cas, j'avais trouvé cette connexion de la mère à l'enfant.
Et sans indiscrétion, c'est votre grand-mère paternelle venait de quel côté de la Pologne? Vous avez découvert quel côté?
Alors, c'est vraiment un petit village entre Wrocław et Łódź. Donc, vraiment, c'est vraiment la Pologne rurale. Il y a des marécages et des forêts, il n'y a pas grand-chose. Et au départ, j'allais vraiment qu'à cet endroit-là, parce que j'étais vraiment comme une enquête documentaire. Et puis petit à petit, je suis allée un peu partout en Pologne, tant que c'était plutôt des zones rurales, pour garder quand même cet esprit des lieux. Mais c'est vrai que je suis partie dans peut-être une quête un peu plus fictionnelle, comme un peu en conte, comme si on allait rendre visite à une famille qu'on n'avait plus là-bas.
Et oui, donc c'est peut-être une personne qui a immigré en France, j'imagine,
oui,
comme beaucoup de Polonais à l'époque. Et j'ai trouvé une connexion justement avec aussi le travail de Mathieu. Il me semble que vous avez travaillé un moment sur une expo. Alors parfois je l'ai entendu qui s'appelait Asile, parfois Refuge. Il y a un travail aussi sur l'autre, l'étranger aussi dans votre travail, Mathieu?
Oui, tout à fait. Alors ça s'appelle plutôt Refuge maintenant, mais c'est vrai que j'ai un peu navigué entre deux noms. Et c'est un travail où je travaille avec des personnes qui sont exilées et je leur demande qu'est-ce que c'est un bon refuge, à quoi ça ressemble un bon refuge. Et à partir de cette question-là, qui est notre prétexte de rencontre et aussi notre thématique, on fabrique des cabanes, des histoires, des objets, des chansons.
Et puis aussi un côté, vous venez de le dire Vanessa, qui avait un côté quasiment... Vous êtes allé en Pologne un peu comme un documentaire photographique. Vous en faites aussi, Mathieu, il me semble, du photojournalisme. En tout cas, ça vous arrive aussi. C'est comme ça aussi que vous abordez vos projets perso. J'ai vu que vous avez notamment travaillé avec le magazine Aime le Monde ou Libération. C'est un peu, ça reste dans votre champ de, comment dire, culturel, en tout cas artistique aussi, ce photojournalisme?
Pas tellement. En fait, pour être photographe maintenant, si c'est vraiment l'activité principale, il faut avoir plusieurs cordes à son arc. Et le photojournalisme, c'est une des cordes de mon arc. Donc j'en fais, mais ça nourrit pas forcément. Alors des fois, ça se croise. J'ai notamment travaillé à Calais autour des situations des personnes qui voulaient traverser la Méditerranée en bateau pour Libération. Et donc ça s'est croisé avec des recherches, mais c'est assez rare que ça se croise. C'est vraiment plutôt un travail économique.
Et on va revenir sur vos deux expositions, mais peut-être Timothée, justement, qu'est-ce qui vous a touché? Pourquoi avoir appelé ces deux artistes? On a dit qu'il y avait des connexions qui sont faites naturellement, mais moi je tente depuis tout à l'heure peut-être des ponts, peut-être qu'il n'y en a même pas du tout à faire, mais voilà, qu'est-ce qui vous a touché dans ces deux expositions et pourquoi les faire rentrer un peu en résonance pour cette quinzaine culte?
Ben oui, déjà c'est une rencontre et c'est vrai qu'on s'en est aperçu hier au moment de l'accrochage, aussi bien chacune des expos discute ensemble mais discute aussi avec le lieu et il y a des ponts qui se font et c'est vrai que alors ça je l'avais pas forcément prévu, j'avoue. Mais non, c'est surtout des coups de cœur, des sensations et aussi des travails professionnels et enfin vraiment intéressants. C'est deux visions de photographie différentes, des pistes, des moyens de photographie différentes. Et nous, dans Tête de Bloc, voilà, c'est ce qui nous intéresse. Et c'est des regards d'aujourd'hui, voilà, en photo, sur notre société ou l'intime, selon.
Mathieu, vous voulez rebondir ?
Oui, si je peux me permettre, je pense qu'il y a un pont qui est quand même assez net entre nos deux expositions. C'est la question du conte, de ce que tu disais tout à l'heure sur partir du réel, puisque la photographie est quand même ancrée au réel, et tendre vers la fiction. Et ça, c'est quand même des choses qui, je pense, réunissent nos travaux.
Oui, je suis d'accord. Et puis, formellement, en plus, moi, je ne savais pas avant, je sais pas, on a à peu près... on retrouve dans l'encadrement de nos images, on travaille tous les deux en argentique, il me semble. C'est des travaux en couleur. Donc, ça rend quand même une unité à deux travaux qui disent pas forcément la même chose, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a des ponts entre nos deux projets.
Et puis, on parlait de l'accrochage. Vous êtes rendu compte de certains ponts, peut-être au moment de l'accrochage hier, juste avant le début de l'émission. Vanessa, vous me disiez que, on l'a dit juste avant, vous travaillez dans le cinéma, donc c'est votre activité aussi en parallèle. Et peut-être que naturellement, toutes vos photos sont en format paysage.
Oui, je m'en étais pas forcément rendu compte, mais plusieurs fois, on m'a fait remarquer que j'avais aucune photo verticale. Et c'est vrai que. En fait, moi, je suis vraiment très influencée par le cinéma, donc j'ai tendance vraiment à regarder tout de manière horizontale. Et encore, je ne fais pas du 16/9, mais ça pourrait.
Et un peu dans l'idée de que ça pourrait être un plan de cinéma, par
oui,
exemple.
Oui, c'est un peu l'idée de travelling aussi, je pense, qui me plaît dans une série photographique. Donc, je pense que j'ai des images mouvantes en tête. J'ai des images mouvantes en tête, mais je les fige à un moment, comme une scène de film.
Ça, Mathieu, ça vous parle aussi ce travail, cette manière de travailler un peu liée à la vidéo. Je sais que vous faites aussi de la vidéo, il me semble. Parfois, j'ai vu sur votre site qu'il y avait des travaux qui mélangeaient photos, textes, vidéos.
Oui, ça me parle notamment sur l'idée que ces images-là peuvent être extraites de quelque chose qui est plus large, que la photographie est toujours ce hors-champ qu'on imagine et qu'elle force le hors-champ. C'est ce que tu disais aussi. Si on arrête un film, il y a l'avant et l'après qui nous manquent et que les spectateurs et les spectatrices sont invités à imaginer. Donc oui, partant de ça, oui. Par contre, moi, j'ai que des photos verticales. Donc, je ne m'étais pas fait la réflexion, mais là, dans l'expo, j'ai que des photos verticales.
Elles sont quand même cinématographiques.
Donc. Oui, après, on peut changer les écrans de cinéma.
Elles seront complémentaires pendant l'exposition. Il y aura toute une partie. Comme ça, on pourra repérer facilement vos travaux. Si c'est vertical, c'est Mathieu. Si c'est horizontal, c'est Vanessa pour les gens qui auront la chance de venir. Justement, si on parle un peu des thèmes aussi un peu humanistes, hein, des photos, ça parle d'un réel et de la fiction, c'est ça aussi, Tête de Bloc, ça a porté parfois un regard qu'on n'a pas ici en Margeride, on est dans le Nord Lozère, pour les gens parfois qui n'ont peut-être pas la chance d'avoir un cinéma de proximité, voir une exposition comme on peut être à Paris, à Lyon, à Marseille, avoir ces lieux-là, de recentrer le lieu ici. Alors, on n'est pas à Grand-Rieu, on est sur la commune de Grand-Rieu, mais on est à la Grange, la Variété, donc au lieu dit la Bataille. C'est ça l'idée, c'était de se dire, les gens d'ici vont pouvoir voir ces expos qu'on voit d'habitude dans des grandes métropoles.
Ouais, tout à fait. C'est vraiment apporter la photographie d'aujourd'hui. Et comme tu dis, tu as tout à fait compris un peu l'idée de la quinzaine, c'est vraiment d'apporter la culture, entre guillemets, enfin vraiment en milieu rural. Donc on est à 1200 mètres, à Grand-Rieu, vraiment très isolé, en moyenne montagne. Donc il y a ça, voilà, c'est faire découvrir des artistes de talent. Et puis bien sûr, c'est quand même, même si ça reste assez contemporain, on a aussi la volonté quand même de proposer des choses qui puissent intéresser le public du territoire.
Ça, justement, ça vous a aussi plu, ce projet-là, derrière juste l'exposition, le fait de venir ici, parce qu'en plus, en plus d'exposer, chacun, vous allez proposer, alors je sais pas comment appeler ça, un atelier, un workshop, une conférence, mais en tout cas, vous allez pouvoir rencontrer les gens qui vont voir votre exposition.
Oui, déjà, je trouve que pour mon travail qui est vraiment ancré dans une Pologne rurale où mes grands-parents sont arrivés en France, bon, ils étaient en Isère, mais aussi dans un milieu très rural. Je trouve que d'un coup, de voir accrocher les images dans une grange, une très très belle grange, mais sur des pierres anciennes, etc. Voilà, ça résonne d'une manière forte. Et puis, pouvoir proposer un atelier, aller vraiment à la rencontre des habitants, c'est une chance qu'on n'a pas forcément dans une grande métropole, justement, parce que il y a énormément de propositions et le public est parfois dispersés.
Justement, peut-être avant de passer à Mathieu, et on en parlera peut-être aussi tout à l'heure quand on fera un peu une liste plus exhaustive de toute la programmation, mais cet atelier prend quelle forme, voilà, à quoi ça va ressembler, puis si on peut rappeler aussi le jour et l'horaire.
Oui, alors c'est demain de 10h à midi. C'est un atelier qui est centré sur la photo de famille, donc en lien avec mon travail, mais de manière plus large, comment la photo de famille sert à des projets photographiques et des projets artistiques. Donc on fera un petit passage en revue de comment la photo de famille a évolué dans le temps. Ensuite, je raconterai vraiment un peu les coulisses de mon travail après les cigognes. Et puis, je donnerai pas mal d'exemples de photographes qui ont utilisé la famille comme support à des œuvres pour que ça puisse aussi peut-être donner des idées aux personnes qui y assisteront ou en tout cas donner envie de découvrir d'autres photographes.
Et vous, Mathieu, voilà comment ce lien avec le public va prendre forme justement au-delà de l'exposition purement.
Donc pour le temps de l'atelier,
c'est ça.
Ouais. Ce qu'on a imaginé, donc c'est le mercredi 23 juillet de 10h à midi, et on propose à chaque personne qui veut venir faire cet atelier de venir avec une histoire qui lui appartient et que ensemble, collectivement, on imagine la forme photographique que prend cette histoire. Donc ça peut être une histoire, une toute petite histoire ou une grande histoire ou quelque chose d'intime ou pas forcément, mais c'est vraiment juste venir déposer une histoire, l'entendre en groupe et après que le groupe puisse dire « Ah bah tiens, moi ça me fait penser à ça ou ça m'a produit telle image » et ensuite on les fabrique ensemble.
Et ça, d'habitude, quand le public vient, c'est quelle forme d'histoire, c'est des histoires qu'ils ont, ils ramènent des récits réels ou c'est purement de la fiction qu'ils ont dans la tête et qui vous l'apportent. Voilà, ça se passe comment un peu, si ça a déjà été fait, ce genre d'atelier?
Eh ben, c'est un peu à chaque fois différent. En fait, c'est le centre de ma pratique, c'est comment est-ce qu'on fait de l'art avec des gens et pas sur des gens. Et donc, je fais ça depuis à peu près 10 ans, ce travail d'art participatif ou d'art en commun. Donc à chaque fois, vraiment, ça prend des formes différentes. Des fois, c'est de la fiction et les gens ne veulent pas qu'on dise que c'est de la fiction. Des fois, c'est vrai, ils veulent qu'on dise que c'est de la fiction. C'est vraiment trouver des formes très libres et on n'est même pas obligé de venir dire si c'est une histoire vraie ou pas vraie, quoi.
Et c'est vrai que ça va rejoindre aussi, peut-être aussi la philosophie tête de bloc. C'est vrai que sur votre site, vous dites ne pas travailler sur un sujet, mais travailler avec le sujet. Ça, c'est aussi des mots qui résonnent pour tête de bloc.
Bah oui, tout à fait. C'est vrai que le travail de Mathieu, il y a ce côté participatif, faire avec, aussi social. Donc ça, c'est des choses qui nous intéressent. Nous, on fait, avec Tête de Bloc, voilà ce que je disais, on a une autre partie qui sont les actions culturelles, c'est-à-dire les actions artistiques et pédagogiques auprès des publics, aussi bien scolaires que médico-sociaux, EHPAD, ESAT, femmes, etc. Et c'est vrai que ça, on le fait toute l'année sur des appels à projets ou sur aussi un CTEAC, ce qu'on appelle, c'est pour la DRAC, en fait, un travail sur le territoire. Et c'est vrai que sur la quinzaine, on avait vraiment envie d'adresser les ateliers parce que c'est souvent des publics, entre guillemets, captifs, en fait. Et là, nous, ça nous intéresse aussi de travailler avec le tout public, c'est-à-dire les gens lambda, qu'ils soient enfants ou adultes. Donc voilà, c'est un peu la... Enfin, on avait déjà fait un atelier avec Jérôme Blin, le photographe de l'année dernière, tout public. Et voilà, nous, c'est un public aussi qu'on souhaite accueillir. Et comme tu disais, il y a le côté d'avoir un lieu aussi central. On veut vraiment qu'il soit aussi convivial. Et voilà, on a envie qu'il vive. Et les ateliers, c'est aussi ça. Donc c'est, oui, ça, c'est toutes ces directions qui nous intéressent.
Donc on parlait d'un public captif avec des enfants, ça veut dire qu'il faut ne pas hésiter de venir en famille.
Ah bah totalement, oui.
Vous êtes d'accord, ça vous... je vois les têtes qui hochent. Donc,
tout à fait.
Oui, en plus des deux ateliers donc photo, parce que c'est vrai que donc Mathieu, il habite pas loin, mais Vanessa, elle est un peu plus loin. On a eu la chance qu'elle puisse être là ce soir aussi. On trouve ça important que les deux artistes soient présents sur le vernissage pour rencontrer le public, échanger. En plus, c'est des gens très, très ouverts, très sympathiques.
Bah, donc... Ça aurait été très frustrant de pas être là. En fait, l'idée d'une expo, c'est bien sûr que nos images soient vues, mais surtout qu'on puisse aussi interagir avec les gens, apporter explications s'il y a besoin, ben voilà. Des réactions.
C'est aussi vraiment rencontrer les gens et puis un peu aussi désacraliser les artistes parce que, comme tu disais, dans Lozère, c'est des choses peut-être un peu nouvelles ou qui ne sont pas usuelles. Et nous, avec Tête de Bloc, voilà, enfin, on a vraiment. Enfin, c'est pas du tout un art élitiste. Enfin, il en existe et tant mieux, mais c'est vrai que ça nous intéresse de faire découvrir des artistes roux-doudou.
Oui, Mathieu. Je rejoins ce que tu dis sur le fait, enfin, ce que vous dites toutes les deux sur le fait de pouvoir rencontrer les gens et de. Et quand je suis venu l'an dernier au vernissage de l'expo de Jérôme Blin, il y avait autant de monde que pour une expo en ville, quoi. Et donc on se dit juste que c'est que la culture n'est pas arrivée en milieu rural et qu'on n'a pas mis les moyens et que vous donnez l'énergie de le faire. Mais il y avait vraiment beaucoup de monde et des gens qui étaient intéressés par l'exposition et des échanges super intéressants. Et je trouve qu'il y a vraiment quelque chose à jouer dans la ruralité, quoi.
Bah oui, et puis c'est vrai qu'on était super fiers, même l'expo... Et on l'a ouvert deux fois deux semaines, donc on a fait 300 visiteurs. On fait aussi bien qu'en ville, en fait. C'est ce qu'on s'est aperçu, ce que nous disait Jérôme. Même sur des vernissages, on a eu 70 personnes. C'est pas toujours le cas en ville, donc ouais, c'est... La culture, elle est partout, quoi.
Et puis avec une attention qui n'est pas de la consommation, puisqu'elle est rare aussi. Les gens viennent et sont hyper attentifs. Alors qu'en ville, on va beaucoup plus passer d'un lieu à un autre et... Là, il y a vraiment une attention, puisque une rareté. Ouais.
Et puis, donc peut-être justement, on parlait de 70 personnes au dernier vernissage, on a la chance d'être en direct, il est 16h26, donc c'est encore le moment de dire qu'aux gens, bah, si vous êtes dans le coin, là,
venez, on offre un verre en plus, venez. Donc c'est de 19h à 22h, voire plus tard, si les gens veulent traîner. Comme je le disais, on a aménagé la grange aussi, que ce soit un lieu convivial, que tout le monde puisse se sentir bien et passer un bon moment ensemble et avec les artistes.
Mathieu, justement, sur ce rapport peut-être aussi proche du public de faire avec, est-ce que c'est pas, c'est peut-être un peu cliché, mais le fait d'avoir grandi en Lozère, à Marvejols, où justement il y a un côté très rural, etc., qui fait que au final, on ne devient pas un photographe parisiano-parisien plus proche des gens, quoi.
Alors moi, j'ai pas grandi en Lozère, mais j'ai grandi dans un milieu très rural.
Oui. J'ai mal révisé ma fiche Wikipédia.
Pas de souci, j'ai pas de Wikipédia, donc ça va.
Il faut.
Oui, ça, pour moi, ça vient de ce côté rural et de... J'ai eu très peu accès, je pense, à la culture quand j'étais gamin, et donc je suis arrivé assez... naïf, on va dire, dans ces espaces-là. Et puis aussi, j'ai fait des études d'éducateur spécialisé et j'ai fait ce métier-là pendant 5 ans à peu près. Et j'en suis parti joyeusement, mais j'ai gardé quand même beaucoup de liens théoriques, de liens de manière de travailler. Et justement, quand on travaille avec des gens, comment est-ce qu'on fait pour... Je dis souvent que j'essaie d'horizontaliser la pratique parce que souvent, la photographie, c'est très... on travaille sur quelque chose et c'est une posture de surplomb, quoi. Et là, d'être dans l'horizontalité, d'être vraiment en co-création avec des gens. Je pense que c'est effectivement lié aussi au milieu rural et au fait que j'avais pas de code culturel en commençant, et donc je pouvais faire un peu ce que je voulais, quoi.
Eh bien, écoutez, on va s'approcher très rapidement de la fin de cette première partie d'émission consacrée donc à ces deux expositions. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose avant qu'on passe à une pause musicale.
Non, on vous attend toutes et tous à 19h, tout à l'heure. Donc.
C'est ça, voilà. Donc si on est en direct, donc effectivement, si vous êtes du côté de Grand-Rieux, vous pouvez passer à La Grange, Le Variété, au lieu-dit La Bataille, à 19h jusqu'à 22h, pour donc l'exposition de Vanessa Cuzet, qui s'intitule « Après les cigognes », et puis Mathieu Farcy, « Montre tes yeux », et donc après, voilà, qui seront exposés toute la quinzaine.
Ouais, jusqu'au 27, donc avec un finissage gâteau électro... le dimanche 27. Donc c'est l'ouverture de l'expo, c'est du jeudi au dimanche de 15h à 19h, c'est gratuit. Donc avec un bar associatif aussi pendant les heures d'ouverture, et elle est visible aussi sur tous les événements et les ateliers. Voilà, aussi c'était la volonté de faire vivre l'expo hors horaire d'expo.
Donc Vanessa, Mathieu, on arrive à la fin de cette première partie. Alors si vous voulez rester pour la seconde partie, on parle du programme, vous pouvez. Sinon, je comprends aussi que vous avez aussi plein d'autres choses à faire. En tout cas, moi je lance la pause musicale avec, on va revenir dessus, Auré, la musique s'appelle « puzzle.
Tous ces moments à tes côtés, je les revis pour ne parler, s'oublier. Un regard en boucle dans ma tête, tu m'as souri juste avant de t'en aller. Les chaises sur lesquelles tu t'es posé, les photos comme elles étaient disposées, garde ta présence. Les cafés du quartier semblent vidés, des regards échangés sans gravité, pendant qu'avec ta présence, je construis des pièces pour mon puzzle. Beaucoup de tes gestes émanent, ils sont dans mon puzzle. Je rassemble chaque instant sur les pièces de mon puzzle. Ils continueront d'exister là, sur mon puzzle. Et petit à petit, l'histoire s'assemble à mesure qu'elle s'écrit. Parfois un peu réel, un peu réécrit. Qu'importe le temps qu'il me faut pour les revivre, tant que ce peu d'instants ne tombe pas dans l'oubli. Petit à petit, la mémoire s'organise tout autour de ces petites pièces, contenant quelques-uns de tes gestes et quelques sourires dans tes yeux. Les chaises sur lesquelles tu t'es posé, les photos comme elles étaient disposées, garde ta présence. Fait du quartier semble vider, des regards échangés sans gravité, pendant qu'avec ta présence, je construis des pièces pour mon puzzle. Beaucoup de tes gestes émanent, sont dans mon puzzle. Je rassemble chaque instant sur les pièces de mon puzzle. Ils continueront.
C'était Puzzle de la chanteuse Auré. Et oui, parce que on n'a pas mis cette musique par hasard. La quinzaine culte, on vient de le dire, c'est deux expos photos avec un vernissage dès ce soir. Mais c'est tout art confondu. Il y a donc de la photo, mais de la musique, encore d'autres choses. C'est ça, Timothée, aussi, la quinzaine culte, c'est mélanger les arts.
Tout à fait, ouais, tout à fait.
Par exemple, voilà, on peut parler de Auré, cette donc... chanteuse qui vient de Paris.
Oui, tout à fait. Autour de cette double expo photo, on accueillera deux concerts, donc à savoir celui d'Auré demain, mercredi 16, à 21h, ouverture des portes 19h, on propose des planches. Donc Auré, c'est une jeune chanteuse parisienne très talentueuse, pour faire vite et simple, un peu dans la lignée d'Angèle. Donc c'est chansons pop, entre acoustique et... électropop, enfin musique électronique actuelle en fait. Donc c'est vraiment très frais, enfin c'est vraiment très très chouette. On l'a vu et ça nous a bien plu et on espère que ça plaira au public. Et on recevra ensuite Stranded Horse le mardi 22. Donc c'est un duo, Yann Tambour et Boubacar Sissoko, donc un chanteur français qui s'est plongé, on va dire, dans la musique malienne. et folk à l'anglaise. Et du coup, il joue accompagné du Sénégalais Boubacar Sissoko, qui joue de la kora. Donc c'est une très belle proposition, vraiment dans la lignée des griots mandingues maliens. Donc on a très hâte. Le dernier album là, qui est sorti, est super beau. C'est très posé. Enfin voilà, c'est un beau voyage acoustique. Et bien sûr, oui, comme tu disais, on veut vraiment mélanger les arts. Donc on proposera un atelier aussi MAO samedi de 10h à midi avec Franck Bateau, qui est un artiste musique électro de Lozère, près de Mende. Donc là, c'est pour la découverte du logiciel Ableton Live. Donc c'est vraiment une initiation. Donc c'est à partir de 12 ans. Après, si des enfants sont intéressés, peut-être si les parents sont là, ce sera mieux. Mais voilà, c'est un atelier qu'on souhaitait aussi partager. Et à côté de ça, qu'est-ce que j'oublie rien quoi.
On aura le temps d'y revenir, mais on parlait tout à l'heure de Mathieu disait de pas travailler sur, mais travailler avec. C'est un peu aussi l'idée de se dire les gens vont écouter de la musique, bon, on leur propose d'en faire avec un atelier MAO par exemple.
Tout à fait, ouais, carrément.
Ça, c'est ouais, comment est née l'idée? C'est vrai que c'est assez rare, je trouve, que dans les événements culturels, entre guillemets, festivals, ouais, de dire aux gens, allez, on fait de la musique. On a parfois un peu l'idée que c'est trop élitiste, comme la photo, les gens ne vont pas comprendre, parce qu'il y a toujours un peu de technique derrière, mais non, vous dites, non, on va le faire.
Bah oui, surtout qu'aujourd'hui, enfin, la musique, entre guillemets, c'est très facile avec les nouvelles techniques de production, c'est vraiment très abordable, que ce soit financièrement, techniquement. Il suffit d'un ordinateur, un logiciel, gratuit ou non. Enfin voilà, c'est tout est un accès avec Internet. Même il y a des logiciels qui fonctionnent sur Internet de production sonore. Donc oui, c'est tout à fait ça. C'est l'envie de faire avec et de faire découvrir, surtout, voilà, comme tu dis, de désacraliser la production artistique.
Ça, Vanessa, si vous voulez, il y a encore le micro avec vous. Vous êtes resté pour cette seconde partie, contrairement à Mathieu. Non, il partit encore faire les derniers réglages de l'exposition, donc il a une bonne excuse. Mais vous hochez la tête quand on parlait de voilà, c'est vrai que les moyens de production, alors en musique, avant, il fallait louer des studios à 10 000 euros, francs, je sais pas, mais voilà, maintenant on peut effectivement très rapidement avec une carte son, quelques centaines d'euros, être capable de faire déjà quelque chose de super chouette, super pro. La photo, c'est pareil,
oui,
vous
c'est
dites,
pareil.
Pas obligé d'avoir un appareil qui coûte tant, avec notre téléphone, on peut déjà faire des choses.
Oui, il y a déjà, enfin, c'est vrai que moi je travaille qu'en argentique, mais c'est un vrai choix, mais on peut faire des séries, des projets photographiques seulement à l'iPhone. De manière très facile. En fait, ce qui compte, c'est surtout ce qu'on veut raconter. Après, ce qui est bien, c'est que maintenant, c'est accessible à tous et c'est une vraie chance, et même aux plus jeunes. Les ados avec leur téléphone, alors certes, ils passent beaucoup de temps dessus, mais c'est aussi un moyen d'expression à portée de main.
Ouais, c'est pour citer Aurel San, que tout le monde connaît, si tu veux filmer un film, prend un truc qui filme, quoi. C'est une citation d'une de ses chansons. Donc aujourd'hui, c'est vraiment ça. Et c'est vrai que, enfin, moi, je suis musicien à la base et je viens vraiment de tout ce qui était ce qu'on a appelé la scène indépendante, enfin, les musiques indépendantes. Et c'était à l'époque, c'était vraiment ça aussi. Voilà, tu veux faire de la musique, tu connais deux accords, ben, tu crées une chanson, quoi. Enfin, t'y vas.
Ouais, c'est vrai que maintenant ça s'est beaucoup plus démocratisé, et en fait, et tant mieux d'ailleurs.
Bah oui, mais voilà, là ça sera la découverte d'Ableton Live, mais c'est aussi c'est une porte sur plein tous les autres logiciels qui sont assez semblables, et c'est vraiment aussi faire découvrir cette technique.
Ouais, puis on espère peut-être si. Bon, je prends un exemple type, mais si un enfant de. Ou un ado de entre 10 et 15 ans, il sera peut-être à cette masterclass, en tout cas à cet atelier, ça peut lui déclencher la petite étincelle qui fait que dans 10 ans, il en fera toujours.
Bah oui, exactement ça.
Ouais, c'est ça l'idée un peu.
Ouais, totalement.
Et oui, c'est vrai qu'on. Vous êtes musicien, Timothée, donc c'est vrai que ça vous parle aussi, j'imagine, d'avoir mélangé. De pas seulement avoir fait une quinzaine culturelle, la quinzaine culte, qu'avec de la photo, vous, c'était aussi. Normal de mettre de la musique.
Oui, bah, Tête de Bloc, à la base, c'est quand même les musiques actuelles. En fait, c'est l'association qui gère l'administratif de différents projets de spectacles musique actuelle. Mais c'est vrai que, bah, comme je le disais, depuis différentes années, on a vraiment envie de soutenir, en tout cas de faire découvrir la photo contemporaine. On avait fait aussi deux printemps du poète. La lecture et la poésie contemporaine nous intéressent aussi. Alors bon, il se trouve que là, on n'a pas forcément le temps et les moyens, mais enfin là, on propose quand même une lecture de Marine Bedon, dimanche, donc 20 à 17h. Donc aussi, qui est une chouette artiste qui, elle, proposera un texte qu'elle a écrit sur sa grand-mère aussi. Donc il y a encore un lien.
Un fil rouge. Ouais.
Qui était paysanne, enfin qui était agricultrice dans le Massif central, donc il y a quelques années. Et autour du thème des cartes postales qu'elle recevait, et c'était le vœu ultime qu'elle avait, c'était que sa collection de cartes postales ne soit pas jetée. Donc voilà, c'est aussi un super texte qu'elle lit très très bien, parce qu'on l'a vu aussi en live. Et je pense que c'est aussi des histoires qui vont toucher en tout cas les gens d'ici, puisqu'on est quand même dans un milieu rural avec beaucoup d'agriculture. Et voilà, c'est comme tu disais aussi, c'est aussi ce qui nous a intéressé dans l'expo de Vanessa. C'est, enfin voilà, nous, personnellement aussi, on aime bien la Pologne, mais la campagne polonaise, il y a aussi des ponts, la dureté, la nature présente, enfin que ce soit aussi dur dans les végétations. Tu parlais de marais, nous on a les montagnes, la neige, le climat aussi ressemble.
Oui, puis ouais, c'est des choses qui vont parler aussi, parce que si on prend donc cette lecture de poèmes ou votre exposition Vanessa, c'est vrai que c'est universel de parler de sa grand-mère, des souvenirs qu'on a, qu'on n'a pas, de se rappeler aussi des photos de famille. Voilà, c'est un thème universel qui va aussi donc toucher ici.
Oui, c'est vraiment la question des racines, d'où on vient, parce qu'à un moment, pour aller quelque part, il faut quand même regarder en arrière, et c'est vrai qu'aussi la question de la transmission et des récits qu'ont pu faire nos grands-parents s'ils étaient en vie, ou justement s'ils n'étaient pas là, comment combler ces manques.
Et donc ça, voilà, on vient de parler de quelques ateliers, de la musique, et il y a aussi donc les goûters électro.
Alors oui, ça sera à toute fin, peut-être.
À toute fin.
Pour ne pas oublier, on peut parler du lundi 21 juillet. En fait, on fait un apéro avec Coralala, donc c'est Claire aussi qui est dans l'association qui dirige donc cette chorale depuis 2 ans sur Grand-Rieux, avec une section depuis 1 an à Saint-Chély-d'Apché. Et du coup, donc, c'est chorale, chant du monde et musique actuelle, mais tout en chant. Et en fait, elle réunit les deux groupes sur des concerts. Donc là, ça sera le troisième concert. Là, ils ont fait depuis 1 mois 2 autres concerts, que ce soit à Grand-Rieux ou à Bagnoles-les-Bains. Et du coup, enfin, on est très content de les accueillir, parce que c'est vraiment aussi un chouette travail autour du chant, de la musique. Mais aussi, finalement, on s'aperçoit que ça lie aussi bien les territoires, ne serait-ce que entre les deux groupes de Grand-Rieux et Saint-Chély-d'Apché.
Oui, parce que parfois les habitants et les habitantes, là en tout cas, ils seront proactifs. Enfin, là aussi, ça, c'est des gens du territoire qui vont pouvoir s'exprimer sur scène.
Tout à fait. Ouais.
Et là aussi, ça sert à ça, peut-être encore plus à Grand-Rieux, ou en tout cas dans la ruralité en général, mais là on parle du Nord-Lozère, entre Grand-Rieux et Saint-Chély-d'Apché, avoir une activité à côté du travail, c'est là aussi où on rencontre son voisin, sa voisine, on fait de la musique avec, et voilà, on se rencontre aussi pour éviter la peur de l'autre.
Bah ouais, tout à fait, enfin nous on est pour, hein. Totalement. Mais c'est vrai que c'est le fait aussi, donc je sais pas, en tout ils sont 25, donc ça permet aussi de mailler, de faire du bouche à oreille, et voilà, c'est encore une ouverture en tout cas sur les arts, et ça nous intéresse aussi, parce que là c'est de la pratique amateur, c'est encore autre chose, et c'est aussi important, c'est vraiment amener la musique où on ne l'attend pas.
Alors là, c'était la pratique amateur, mais il y aura aussi donc des professionnels de la musique. Mais en tout cas, tout ce qui est proposé a pour commun également d'être gratuit.
Alors, pas tout. Tout à fait.
Pas tout à fait.
Mais oui, il y a des. Bah justement, cette soirée, c'est à prix libre.
Oui, voilà.
Tu parlais du. Alors, gâteau électro parce qu'en fait on a appris qu'on n'avait pas le droit d'utiliser goûter électro parce que c'est une marque déposée. Donc voilà, oui, le finissage, on invite Célène qui est un solo musique électronica de Montpellier. Et donc là aussi c'est à prix libre. Après la chorale c'est gratuit, oui tu le disais. Après c'est vrai que les concerts, en fait tout de suite il y a des coûts techniques, oui, etc. De transport, et puis voilà, on rémunère convenablement enfin les musiciens et les artistes. Donc vous voyez, il y a des petites entrées à 8 ou 10 euros sur les concerts.
En tout cas, il y a quand même une idée d'avoir des prix très attractifs au plus bas. Oui, pour parce que c'est vrai que si on disait que le lieu est en réalité, les gens peuvent venir, mais si les prix des concerts étaient à 40 ou 50 euros, ou même des expos, les gens viendraient sûrement pas. C'est aussi l'idée de se dire, c'est des publics parfois, pas tout le temps, pas rentrer dans le cliché, mais des publics parfois éloignés de certains cadres culturels. Si on met le billet d'entrée, le payage à 20 euros ou 30 euros, ils viendront pas.
Oui, c'est sûr qu'on a cette politique de tarification basse. Après, on peut encore le faire parce qu'on est quand même plutôt bien soutenu par les institutions. Enfin, on est subventionné par la DRAC, ministère de la Culture, la région sur de l'équipement, le département, la mairie de Grand-Rieux, et plus des partenaires privés. Il ne faut pas que j'oublie personne.
C'est le moment à chaque fois où...
Oui, la boulangerie Roland, la charcuterie et boucherie Vignal et le MAC de Grand-Rieux en partenaire privé, et puis bien sûr 48FM et Radio Zema en partenaire média. Et après, c'est vrai que nous aussi, on a une peu... Tu parles de cette politique tarifaire. Mais c'est vrai que nous aussi, on a une envie de justement... C'est intéressant que tu parles de ces gros concerts aujourd'hui. Alors, c'est pas pour une critique ou quoi.
Hein, mais c'est vrai qu'en plus, on est au mois de juillet, donc c'est la saison des festivals. Voilà, on voit de plus en plus des festivals où la soirée est à 50-60 euros.
C'est vrai qu'avec cette quinzaine culte, il y avait cette volonté justement un peu de revenir, en tout cas de commencer sur quelque chose de très, très local, très... très intime en fait. Ouais. C'est vrai qu'on est dans une zone vraiment très, très peu peuplée, donc c'est difficile de faire venir du public de loin. Mais ce qu'on propose aussi dans cette programmation, c'est vraiment de venir dans des événements intimes, vraiment de proximité, sur des petites jauges, mais que voilà, qu'on soit bien, sans que ça soit vide ou quoi. Mais voilà, c'était de revenir enfin à quelque chose de plus. Je sais pas comment dire. Plus terrestre peut-être, oui, que les grands stades, les grands spectacles, même si bien sûr il y a des choses très 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 chouettes.
Et est-ce que là peut-être on va plus parler de... Alors ça rentre avec toujours le sujet de cette première édition de la quinzaine culte, mais en règle générale, Tête de Bloc, est-ce que Tête de Bloc n'est pas aussi un peu... Enfin, comble un peu un vide dans ce qu'on a là à Lozère. C'est vrai que culturellement, je vais pas prendre tous les sujets, mais c'est vrai que à Saint-Chély, il y a le ciné-théâtre qui fait beaucoup de choses avec une saison culturelle. Plus à l'est, on a Langogne avec les Fadarelles et le Festivalier. Un peu plus au sud, il y a eu qui a ouvert un peu son des festivals en Lozère. C'était le Festival d'Olt. Là, on va aller à Chanac bientôt. On revient du 40e de rue. Un peu partout en Lozère, il y a des événements. C'est vrai que là, dans ce... tout au nord, ni trop à l'est, ni trop à l'ouest, avec Grand-Rieux, on avait un peu un trou, il fallait aussi un événement comme ça, l'été, qui rassemble.
Alors s'il le fallait, je sais pas, mais nous, en tout cas, on en avait envie, et c'est vrai qu'il y a un trou, même, c'est aussi pour ça nous, ça nous intéresse particulièrement, la photo contemporaine, mais c'est vrai qu'elle est très peu représentée en Lozère, enfin, il y a des beaux événements, comme Photograc, ou Festival de Mende en photo, qui sont plus naturalistes, ou de paysages. Mais c'est vrai que sur cette photo, c'est sûr qu'il y avait il y avait un vide. Et c'est vrai qu'en musique, on adore, il y a plein de choses. Il se passe même sur ce territoire de la Lozère, oui, qui est le département le moins peuplé. Il se passe énormément de choses, il y a beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'on apporte peut-être quelque chose, en tout cas une programmation un peu différente, qui se situe à la croisée des différentes assos. Ouais. Que tu as cité.
Eh ben, je ne sais pas si il y a encore des choses à rajouter. Je vois que le temps passe. On a fait le tour des différents de la programmation. Il y a encore là un dernier mot, plusieurs derniers mots. Je ne sais pas où on peut aller encore.
Oui. Alors, attends, je regarde pour ne rien oublier. Hormis, oui, du coup, peut-être petit point promo. En fait, on propose des planches sur les soirées concerts.
Oui.
Que ce soit sur le concert doré, Stronaut Horse ou l'apéro Coralala. Et on n'a pas parlé, par contre, si, de la projection Bias numéro 2, puisqu'on en avait fait déjà une il y a 2 ans sur le Total Festum. Donc Bias, en fait, c'est une soirée court-métrage. Ce sont des cours sur les savoir-faire oubliés d'Occitanie. En fait, c'est le réalisateur Amic Bedel, qui est basé à Toulouse, qui parcourt donc le vaste territoire occitan en France, qui fait quasiment la moitié de la France. Et lui, du coup, il part rencontrer vraiment des personnes remarquables ou des savoir-faire. Et donc, c'est vraiment très moderne, mais en même temps, ça rappelle aussi des choses de la culture occitane. Et donc, ça, c'est le lundi 21 à 20h30.
C'est ça, lundi 21.
Donc là, on projettera toujours dans la grange, en grand écran cinéma avec le système son. Donc, ça avait très bien marché il y a 2 ans. Donc, on a hâte, Amic a filmé de nouveaux courts-métrages, donc on a hâte de les découvrir.
C'est vrai que Vanessa l'a dit tout à l'heure quand on parlait de l'installation de l'expo, mais vous venez de le redire, la grange aussi, rien que pour la grange, il faut aussi venir, le lieu fait beaucoup. Ben ça peut-être, Vanessa, des fois, vous qui êtes exposé dans plusieurs endroits, en tant que photographe, ça compte d'exposer dans un lieu qui a une histoire, en tout cas même une esthétique qui vous plaît ?
Bah, c'est sûr que les lieux dégagent quand même une énergie, c'est pas la même chose de faire un vernissage dans une galerie très immaculée ou dans une grange, ça met aussi une dynamique de rencontre avec les personnes différentes. Et là, rien que pour l'accrochage, on sentait qu'il y avait quelque chose de très chaleureux, très bienveillant. Donc je pense que ça va être un bon moment ce soir et toutes les rencontres qui sont prévues tout au long de la quinzaine.
Bah oui, on a hâte justement de voir comment ça va communiquer. Parce qu'on a... Alors je vais pas peut-être pas spoiler, mais brièvement, mais oui, là, on a mis la scène en position centrale dans la salle, au milieu de l'expo. Donc, lors des moments d'expo, c'est plutôt un îlot central, un peu chill, avec des coussins. Et là, en soirée, ça deviendra la scène. Et donc, oui, c'est vrai qu'on a hâte de voir comment ça va communiquer tout ça, et puis comment les gens vont recevoir et aussi prendre. Cet événement et ses artistes.
Oui, il y a une mise en scène particulière, c'est vrai, oui. Que le fait de poser la scène centralement, on ne sait pas si les gens vont rester de frontal comme voilà, ou s'ils vont oser aller derrière.
On va les orienter, mais bon, toutes les possibilités seront ouvertes.
Mais en tout cas, c'est vrai qu'en termes de mise en scène, ça va être chouette, ça va faire des chouettes images, oui, des chouettes souvenirs.
C'est vrai que c'est quand même un lieu assez beau, assez magique, qui a une histoire. Et c'est vrai que c'est magnifié, ce dont on parlait hier, il y a vraiment on l'avait déjà vu avec l'exposition de Jérôme Blin, il y a une discussion, que ce soit entre les œuvres, donc là, on le répète, les deux expos de Vanessa et Mathieu, mais aussi le lieu, et voilà, je pense qu'on a passé des bons moments.
Bon, on va finir sur ces beaux mots. On va passer à de bons moments pour cette quinzaine culte. Je rappelle, du 15 au 27 juillet à la Grange Le Variété, donc le lieu dit La Bataille, en tout proche de Grand-Rieu, en Margeride, pour cette première édition. C'est ça, j'ai rien oublié.
Ouais.
Et puis, si peut-être, alors là, si les gens veulent retrouver, il y a un site, un Facebook
sur
pour.
Sur les réseaux, Tête de Bloc, donc TETEDE. BLOCK en 3 mots, réseau Facebook, Instagram. Donc voilà, toutes les infos y sont. N'hésitez pas à nous suivre, à partager aussi. Et puis juste pour dire, Grand-Rieu, c'est pas si loin de Mende ou toutes les villes et les villages autour. C'est très beau, la campagne autour.
Je confirme.
Vanessa confirme. Merci Vanessa d'avoir pris le temps. Et puis bon vernissage pour ce soir. Effectivement, c'est encore l'heure de venir. C'est dans 2 heures le vernissage. Donc il y a encore le temps de venir. On stoppe la radio à la fin de l'émission. On prend la route et on peut encore venir. Même des Cévennes dans 2 heures. On est ici à Grand-Rieu. Merci Vanessa pour avoir pris le temps. Et bon atelier demain, c'est ça ?
Oui, merci.
L'atelier qui va se passer. je remercie aussi Mathieu d'être passé, qu'il est encore en train de mettre les derniers clous, les derniers petits réglages de ces dernières affiches pour l'exposition. Et puis, bah, merci Timothée pour l'invitation, pour l'association Tête de Bloc.
Merci Thomas d'être venu et merci 48FM.
Merci à vous et puis à une prochaine pour Théma.